privilégier les personnes qui n'ont pas pris la parole lors des tables rondes précédentes. Oui, oui.
Bonjour, je suis Marine Denebourg, je travaille pour le journal Aujourd'hui la Turquie, un journal francophone que peut-être certains d'entre vous connaissent. Je suis également en Master 1 d'études européennes à Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Donc j'ai deux questions qui s'adressent à qui voudrait bien répondre. La première, c'est concernant la vision qu'ont les Français de la Turquie et des Turcs. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème, donc, oui, comme on a dit, de communication des Turcs en France, et donc un problème de peut-être un manque de lobbying en fait des Turcs en France? Est-ce qu'il n'y a pas un problème là-dessus? Deuxième chose, ça concerne ce que vous avez dit à propos de l'islam. Alors, je suis un peu sceptique au niveau de la place de l'islam en Turquie. Parce que sur quoi se bat-on, sur quels critères se bat-on pour dire qu'il y a 90 à 95% de Turcs qui sont musulmans, sachant que moi j'ai vécu en Turquie, donc j'ai un peu observé de mon œil français et européen, et j'ai vu en fait qu'il y a une petite incohérence, c'est que quand on regarde les cartes d'identité des Turcs, il y a systématiquement écrit sur la carte d'identité que la religion est l'islam. Et la plupart de ces gens, enfin moi j'ai vu plein de gens qui étaient dans mon entourage, m'ont dit bah non, moi je suis athée, c'est juste que c'est obligatoire. À la naissance, on m'a dit que j'étais de religion musulmane. Donc, sur quoi se bat-on pour dire que la population turque est à 95% musulmane, sachant que c'est un problème aussi de vision, étant donné qu'en France, si on se base sur ces chiffres, évidemment, la Turquie fait peur. Donc, est-ce que justement, il n'y a pas un problème là-dessus? Voilà.
On va prendre plusieurs questions en même temps.
Voilà 30 ans que je marque à la culotte tous les Turcs qui passent par les institutions européennes. Et 30 ans que je vois des fonctionnaires, des parlementaires, des hommes d'affaires, des associations, je n'ai jamais, jamais assisté à une prise de décision commune où il y ait un marqueur islamique ou musulman dans la décision prise en commun. Jamais. Je n'ai aucun exemple à sortir d'un Turc qui se soit opposé à une décision commune en disant « Moi, ma religion, ma tête... » Non, jamais, jamais, jamais. En 30 ans.
Je vous interromps parce que je crois qu'il y a un grand malentendu. Il me semble que personne ici n'a dit que les positions turques ou que la nature turque était déterminée profondément par l'islam. En revanche, c'est la représentation que certains se font de la Turquie qui reste profondément marquée par l'idée qu'ils se font que la Turquie est majoritairement musulmane. Donc n'ayons pas de faux débats là-dessus. Personne ici n'est adepte de quelque essentialisme culturel ou religieux que ce soit. En revanche, et ce sur quoi nous étions en désaccord, c'est le fait de pointer, dans les représentations françaises notamment, le rôle qui joue, de manière éminemment fantasmatique d'ailleurs, l'idée que la Turquie est un pays majoritairement musulman. Pour répondre à la fois à votre question, enfin il me semble que c'est pour éviter les...
On peut souligner que ce caractère musulman n'apparaît pas dans les décisions prises en commun.
Bonjour, Maxime Gohain, étudiant en Master 2 à Paris-en-Sorbonne, histoire contemporaine. Je voulais juste revenir sur histoire et politique et poser une question à la cantonade sur comment il y a eu ce basculement, comme l'a très bien dit M. Ferrand, qui concerne surtout une petite élite française, élite entre guillemets, au début des années 2000 à propos de la Turquie. Et je remonterai pas à François Ier, mais à 1929-1930, parce que le premier projet d'Union européenne officielle s'est présenté par Aristide Briand en 1929, et il oublie la Turquie, il oublie aussi l'Islande. Et certains lui disent, notamment les Grecs, « Ah non, 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 l'Europe, on veut bien en discuter, mais il faut la Turquie. » Et Aristide Briand accepte en 1930. Très peu de gens nous sortent des arguments culturels délirants à propos de la Turquie n'est pas européenne. C'est une question qui se pose très peu à l'époque. Et, excusez-moi, je serais en total désaccord avec ceux qui voudraient rapprocher ça de l'histoire coloniale de la France. Le parti colonial a eu ses erreurs, il a eu ses crimes à l'occasion, mais l'islamophobie est quelque chose d'extrêmement rare, sauf pendant la guerre d'Algérie. Il y a tout un courant colonialiste qui est islamophile et turcophile. Lyoté, résident général au Maroc, Berthe Georges Gaulis, qui était très proche de Lyoté, était turcophile jusqu'au bout des ongles. Alors, pour essayer d'aller vite. De la même manière, dans les années 50, la Turquie entre au Conseil de l'Europe, dont la principale activité est culturelle, Et personne, personne, y compris même les démocrates chrétiens les plus conservateurs, ne se lève pour dire la Turquie musulmane, elle ne peut pas rentrer. Dans les années 50, la Turquie participe à plusieurs projets de construction européenne. Personne ne nous sort d'arguments délirants sur la religion et la culture. Et en 57, pour aller dans le sens de M. Ferrand, le principal commentaire du Premier ministre turc de l'époque, musulman conservateur, c'est de dire « Ah, le traité de Rome, c'est excellent, il faut réviser la Constitution et y rentrer dedans parce que ça ferait une union politique. » Et on pourrait continuer à plaisir, mais ça a déjà été fait sur les années 60, 70, 80. Donc il faudrait peut-être creuser, aussi bien pour nous historiens que pour les commentateurs politiques qui ont vécu cette époque et la mémoire de certains hommes politiques, et se demander mais par quel délire on en est arrivé à faire de l'islam et de la culture des arguments contre la Turquie. Et comment, ça pourrait être retourné, je ne vais pas refaire le débat, juste un mot, en citant un des plus grands spécialistes de l'islam et de la Turquie, Bernard Lewis, qui dit bon, au fond, les musulmans, ils ont deux modèles, ils ont la Turquie et l'Iran. Si on considère que l'islam pose un certain nombre de problèmes, notre intérêt, c'est de consolider le modèle turc. C'est pas de consolider le modèle iranien. Voilà.
Est-ce qu'on peut prendre encore une ou deux questions très rapidement mais on nous sommes de rendre la salle. Donc,
Bonjour, Jean-Marie Benjou.
Bonjour, comme lycée.
Je suis marié depuis 25 ans avec une Turque. Je dois vous dire que c'est un sujet... J'ai assisté à toutes les tables rondes, enfin, ce que j'ai pu actuellement... Et je trouve que le sujet de l'adhésion de la Turquie est un fabuleux sujet d'interrogation sur soi-même, mais avec une vision chaque fois partielle et avec son propre prisme. Et je ne sais pas si on arrivera à résoudre cette question. Je vais vous donner 2-3 anecdotes. D'abord, pour répondre à madame, c'est vrai, vous avez raison. Quand on a établi le premier noufous de mon fils à l'ambassade de Turquie en France, on a inscrit la religion musulmane, sans même me demander mon avis, alors que je suis catholique et ma femme est musulmane. Donc c'est vrai qu'il y a une pratique un peu particulière. La deuxième chose, c'est quand j'ai fait les démarches pour me marier en Turquie, ça a été fabuleux à l'époque, l'ambassade de France m'a dit « Monsieur, ne prenez pas la nationalité turque, parce que vous savez, elle est riveraine de l'Irak, de l'Iran, de la Russie, c'est un monde très particulier, c'est quelque chose d'effervescent. » Et c'est vrai que c'est cette situation géographique qui fait que la Turquie est quelque chose qui interroge l'Europe, parce qu'elle est en prise avec différents mondes qui ont calqué, modelé l'histoire de l'Europe et du monde. Et à ce titre, lors d'une de ces conférences, j'ai entendu pour la première fois que l'origine du conflit Chypre-Turc était liée à une dictature grecque. Jamais, jamais l'Europe ne s'est interrogée sur le fondement du fait que cette origine, cette guerre, était liée à une dictature qui avait été établie en Grèce. Oui, c'est les militaires grecs qui... Oui, non, mais vérifiez, c'est lié. Et oui, on oublie...
Non, mais est-ce que vous pouvez rapidement en venir au sujet de votre intervention?
Bah, justement, c'est pour montrer qu'on revoit toute l'histoire de l'Europe, toute l'histoire des civilisations avec son prisme. À un moment, on ne dit pas, mais le problème d'aujourd'hui est lié à un fondement démocratique erroné. C'est pour vous dire que moi, ce qui m'intéresse dans ce débat, c'est un débat sans fond. Et je vous rejoins, monsieur, en disant qu'effectivement, il faut une vision politique, il faut une vision claire du devenir de l'Europe et de l'appoint de la Turquie dans l'Europe pour savoir où on va. Tout le reste, c'est en fonction de son prisme.
Une dernière prise de parole et puis...
Oui, bonjour à tous, je m'appelle Henri, je suis étudiant et stagiaire Cumula. Je voulais savoir, j'étais vraiment d'accord avec tout ce qui s'est dit à propos de l'européanité de la Turquie, de son histoire, de son sincère engagement vers l'Union européenne. Mais il y a un aspect qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, c'est le côté droits humains et droits sociaux. Moi, je me suis intéressé, j'ai fait un mémoire à propos des syndicats turcs et comment ils faisaient pour essayer de faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Et je me suis intéressé à la DISC et à la CESC, et j'ai vu pendant l'actualité récente, en gros depuis la crise politique qu'a connue la Turquie à partir de 2006-2007, plein de syndicalistes turcs ont été enfermés, emprisonnés, et quand je suis allé à Istanbul au mois de mai dernier, juste après le 1er mai, au siège central de la DISC, les bureaux avaient été incendiés, détruits par la police turque. Alors je veux savoir... Moi, globalement, je suis pour l'entrée de la Turquie dans l'UE. J'ai passé une année en Turquie. J'adore la culture turque. mais c'est quand même sur les droits humains, sur la démocratie, sur les droits syndicaux. Je ne sais pas quelle est vraiment la situation. Et ça, c'est quand même un frein, je pense, pour l'entrée de la Turquie dans le lieu. Je vous remercie.
Je vais laisser répondre très rapidement les participants de la table ronde, s'il y en a qui souhaitent dire un mot.
Sur la politique sociale, c'est un cas d'espèce typique du désintérêt actuel en Turquie par rapport aux négociations. Donc c'est un chapitre qui devait être... Il y a un chapitre sur la politique sociale, comme vous savez, le chapitre 19. Il devait être ouvert sous la présidence tchèque. Il n'a pas pu être ouvert pour les négociations parce qu'il y a toute l'industrie, c'est presque de révolter, est allé voir le gouvernement en disant on peut absolument pas accepter les deux conditions d'ouverture de ce chapitre. Ça concernait le droit de grève des fonctionnaires et le seuil maximum de syndiqués dans un lieu de travail. Donc ils ont dit on peut pas accepter ça parce qu'on n'a aucune garantie d'adhésion à la fin du processus. Voilà un cas typique, et il y en a plusieurs. Vous allez me dire, c'est pour la bonne cause, c'est pour la liberté syndicale, etc. C'est vrai. Mais quand il y a un pays, justement, qui est membre de l'Union européenne, qui dit à la Turquie, quoi que vous fassiez, vous ne serez pas candidat, vous ne serez pas membre, hein, donc ça aide pas. Et là, je voudrais revenir en partant de là, justement. Alors, vous savez, la Turquie, pourquoi la classe politique a inventé des formules comme « tout sauf les institutions » hein? Pourquoi on dit, pourquoi on parle d'un hypothétique vote turc au Parlement européen? Alain Lipietz connaît ça. Il n'y a pas de vote national au Parlement européen. Les gens de droite votent à droite, les gens de gauche votent à gauche, hein, les verts votent avec les verts, et l'extrême droite ne vote avec personne parce qu'ils sont jamais d'accord entre eux. Donc voilà. Alors on parle du vote turc comme si il y avait un pourquoi, mais tout ça c'est de l'inconscient collectif par rapport à l'islam. Il faut comprendre ça. La Turquie représente l'islam. Quelle que soit l'erreur de cette appréhension, de cette compréhension-là, n'est-ce pas? Et voilà, et on nous dit en face, vous savez, le débat, c'est pas sur la puissance de l'Europe ou l'Europe politique aujourd'hui. Le débat, c'est sur l'identité de l'Europe. Et ce débat sur l'identité de l'Europe est posé de et à travers l'arrivée de la Turquie, malheureusement. Vous savez, j'étais à une table ronde, il n'y a pas longtemps, à Die, vous savez, la clairette de Die. Eh bien, il y avait le député UMP du coin, il a écouté mes arguments, j'ai dit pratiquement la même chose. Il m'a dit, mais monsieur, on veut être entre nous, je veux une Europe intimiste. Il l'a dit, il ne m'a pas parlé de l'Europe puissance, hein. Il m'a dit, je veux une Europe intimiste.
Voilà. De cette discussion, je voudrais dire deux choses. D'abord, toutes les élites françaises ont toujours pensé qu'il fallait, au moins dans le cadre de l'intergouvernementalité, et non pas de la fédération, ni même d'une confédération, que la Turquie soit dans l'Europe. C'est évident. Le problème, c'est qu'ils n'en veulent pas dans le cadre d'une fédération. Et quand on leur pose la question, parce que quand même, rentrer dans l'Union européenne, ce n'est pas la même chose que d'être dans la section européenne de la Ligue internationale du football, hein, ce n'est pas la même chose que d'être dans le Conseil de l'Europe, c'est participer à des lois qui s'appliquent en France, au vote de lois qui s'appliquent en France, même déjà dans l'Union européenne telle qu'elle est, dans l'Europe de Maastricht et de Nice, hein, les élites qui ne veulent pas. Enfin, il y a des élites qui veulent bien une association privilégiée avec la Turquie, mais qui n'en veulent pas en France. Or, dans l'Europe, c'est pas pareil. C'est absolument pas pareil. Alors, que les élites fédérales... Alors, est-ce que les élites européennes sont fédéralistes ou confédéralistes ou souverainistes? Contrairement à Rancière, je pense que L'exemple du traité constitutionnel européen a montré que les élites se partagent entre ces trois positions et qu'on ne peut pas dire qu'être fédéraliste, c'est être libéral ou antilibéral. Enfin, tout existe. Hein. Bon, moi, je pense que quand on est vraiment antilibéral, on est forcément fédéraliste. Mais enfin, c'est un raisonnement strictement logique et qui n'a rien de psychologique ni de politique. Il y a le Wall Street Journal, le Financial Times est contre le TCE, contre une Europe fédérale parce qu'il est libéral. Lui, il sait ce qu'il veut. Hein. Mais Alain Massour, par exemple, peut très bien être libéral et pro-fédéral, mais sans la Turquie. Enfin, vraiment, ce sont des questions qui sont, au sens mathématique du terme, perpendiculaires les unes aux autres. C'est-à-dire, elles ne font pas plutôt pencher dans un sens que dans l'autre. Hein. Bon. Donc, les élites, c'est vrai que ça ne gêne absolument pas de dire que la Turquie est européenne. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'elles sont pour que la Turquie rentre dans l'Europe. Et ça, c'est un non. Hein, c'est la position sarkozyste du partenariat privilégié. Oui, c'est ça. Vous êtes dans la même section que nous en football, etc., etc. Bon. Alors, deuxièmement, les masses, elles, je suis totalement d'accord, mais alors vraiment, je pourrais donner 1000 exemples encore de ma dernière campagne à Poissy, où pratiquement qu'il y a une ville qui vit sous la dépendance de Peugeot, de l'usine Talbot de Poissy. Hein. Donc 80% des ouvriers ont été marocains. Pour eux, ces marocains sont des Turcs comme les autres. Enfin vraiment, penser que dans les masses françaises, on fait la distinction entre les Turcs, les berbères et les Arabes en matière de musulmans, enfin c'est... Faut vraiment être rentré déjà dans un très haut niveau de politisation. Hein. Dernier point, la répression syndicale et les droits de l'homme. Alors ça, c'est le problème fondamental de toutes les oppositions démocratiques en Turquie. Chaque fois qu'ils rencontrent un vert ou des verts, ils leur disent enfin, c'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de nous faire, ce gouvernement. Ils sont exactement comme les kémalistes, ils nous massacrent, ils nous torturent, etc. etc. Ah bon, alors ça n'a pas lieu. Hein, donc, faut qu'on dise que c'est... Ah non, c'est nettement mieux. Hein, c'est nettement mieux. Hein, surtout que ça n'apparaisse pas comme un obstacle à l'entrée de l'Europe, de la Turquie dans l'Europe. Ben alors, on dit que c'est pas bien, que c'est bien. Non, il y a des progrès, mais c'est encore vraiment pas bien. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on dit exactement? Ah ben, débrouillez-vous, mais faut pas que ça soit un obstacle à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Et ça, que ce soit les Kurdes, que ce soit les féministes, que ce soit les minorités religieuses, ou que ce soit les syndicalistes, tous les défenseurs des droits de l'homme nous disent exactement la même chose. Ne dites rien qui entraverait la rentrée de la Turquie dans l'Union européenne, car on est persuadé que ça ira beaucoup mieux une fois qu'on sera dans l'Union européenne, mais en même temps, ne laissez rien passer dans ce que fait le gouvernement actuel turc. Donc, bon, c'est très bien de rappeler qu'ils continuent à massacrer les syndicalistes, etc. Cela dit, on est toujours embêté quand on rappelle ça, parce que, ah ben voilà, puisqu'ils massacrent les syndicalistes, ils ne pourront jamais rentrer dans l'Union européenne.
Une phrase chacun.
Ça montre bien qu'on regarde à la Turquie avec une loupe. Hein. C'est pour répondre peut-être à votre question. La carte d'identité, le problème de la carte d'identité, on mettait effectivement la religion sur la carte d'identité, mais la Grèce aussi a mis la religion sur la carte d'identité. Jusqu'en 2000, c'était une spécificité grecque dans l'Union. Enfin, je dis cela, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il ne faut pas mettre la religion sur les cartes d'identité, mais il n'y a pas double poids, double mesure. Même chose, on l'a vécu aussi à un moment donné avec l'histoire. À un moment donné, c'était un député turc qui avait glissé une proposition de loi rendant... criminel l'adultère, voilà. Et donc ça a fait une tollée, effectivement, donc il fallait combattre cette proposition de loi, mais on a oublié que l'Autriche avait aboli cette loi 2 ans après son adhésion dans l'Union européenne. Si je dis tout cela, c'est parce qu'on est bien d'accord sur des valeurs, et qu'il faut bien contrôler le processus en Turquie, etc., mais il faut le faire partout pour que ça soit crédible aussi en Turquie, parce que ce type de comportement affaiblit les partisans de l'Europe, parce que les extrémistes disent, ben, vous voyez, il y a double poids, double mesure, les autres ils ont le droit, mais quand il s'agit de la Turquie, non. Voilà, donc j'arrête.
Juste pour venir une dernière fois sur ce débat islam pas islam, moi, ce que je ce que je pense, c'est que la Turquie pose un problème au regard de l'identité européenne, parce qu'elle est considérée par les Français ou par les Européens comme extérieure à l'identité européenne. Pourquoi ? Non pas d'abord pour des raisons religieuses, ma conviction c'est que ça n'est pas ça le problème, d'abord pour des raisons strictement géographiques, on vous explique que voilà, c'est, la Turquie c'est pas en Europe, l'Albanie, la Macédoine sont des pays à majorité musulmane, mais c'est européen parce que c'est au milieu de l'Europe, donc le problème ne se pose pas. Il y a un problème d'histoire, on vous dit que la Turquie n'a pas d'histoire européenne, et il y a un problème de religion, et on vous dit que effectivement la Turquie est musulmane. Mais le problème, c'est faire de l'islam le problème principal, je pense, est une vision erronée. Et donc le problème principal, c'est l'identité, donc c'est, ça renvoie à ce qu'est l'identité européenne et au projet européen. Et pour répondre à la question sur les droits de l'homme, Ça n'est pas une question liée à l'identité. Les droits de l'homme, ça fait partie des critères de Copenhague pour l'adhésion. Vous devez respecter les droits de l'homme et la démocratie d'une part, et d'autre part, pour adhérer, pouvoir supporter l'économie de marché du grand marché européen. Donc sur les droits de l'homme, ça pose pas une question de principe, ça pose une question de temps de transition. Tant que la Turquie ne se conforme pas aux critères d'adhésion, notamment en matière de droits de l'homme, elle ne pourra pas adhérer. C'est tout l'objet des négociations, de la mettre aux normes au niveau européen, notamment sur ces grandes questions-là. Et il y a des progrès qui ont été faits. Je ne suis pas sûr qu'avec l'AKP, ils aient reculé. On confère encore ces derniers jours, ces dernières semaines, les Kurdes, enfin le retour des Kurdes, l'accord avec l'Arménie. Donc on a des évolutions qui sont très positives. Globalement, depuis 2001, les progrès sont extraordinaires. Le recul de l'armée, l'abolition de la peine de mort. Et donc ça va dans le bon sens. Ça y va peut-être trop lentement, c'est vrai. Mais de toute manière, ça pose pas la question de principe. Une fois que tout ça sera réalisé. Que la Turquie sera mise aux normes du droit européen et notamment de ses grandes valeurs, la question c'est est-ce que vous pouvez ou non adhérer ? Et la réponse de Nicolas Sarkozy, c'est de toute manière, quels que soient les efforts que vous faites, vous ne pouvez pas adhérer, ce qui est une extraordinaire insulte à tout un peuple, parce que lancer des négociations d'adhésion, c'est leur nom, négociations d'adhésion, en leur disant à la fin des négociations d'adhésion, de toute manière vous ne pourrez pas adhérer, c'est quand même se foutre de la gueule de tout un peuple.
Toutes les tables rondes.
Merci à tous les quatre. Oui. Je laisse quelques minutes pour une minute pour les organisateurs de cette rencontre.
Oui, j'espère que cette journée vous a plu. J'ai trouvé toutes les tables rondes intéressantes, mais celle-ci a peut-être représenté le point d'orgue de la journée, tellement les enjeux et les débats étaient intéressants. Je voudrais juste dire que j'avais aussi personnellement peur d'une superposition entre la table ronde et la table ronde 3, mais ces deux tables rondes, par leur animation et les intervenants, étaient bien différenciés. Voilà. Si les débats vous ont plu, on va essayer, au nom de Turquie européenne, donc de mettre la retranscription audio sur notre site, de manière à ce que le plus grand nombre ait accès à ces débats. Je voudrais remercier bien entendu tous les conférenciers de cette journée et vous aussi participants. C'était une belle journée. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe Turquie européenne parce que cette journée était le fruit d'un travail collectif. Je vous remercie.
Président d'honneur, Reynald Beaufort, le fondateur de l'association turque européenne en avril 2004.
Donc la même chose. En fait, je voudrais remercier les assistants déjà pour leur participation au débat, leur intérêt, le fait qu'ils soient venus nombreux aussi. Je remercie bien aussi évidemment tous les intervenants aux tables rondes pour ces débats très très intéressants. Et puis on m'a chargé donc de conclure cette rencontre. Qu'on essaiera de renouveler si possible d'ici quelques temps. Et je vous souhaite donc une bonne continuation, une bonne soirée et merci encore pour votre participation.
Je vous prierai de ne pas vous attarder, de quitter la salle assez vite, semble-t-il, parce qu'elle est destinée à être fermée rapidement.
À la sortie, vous avez la brochure sur Turquie européenne ainsi que des informations sur les événements à venir dans le cadre de la saison de la Turquie.